Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Thierry Lenz, qui est directeur de la Fondation Napoléon, nous vous recevons une fois de plus pour un très beau livre, Napoléon diplomate, qui est assez décalé, je dirais, et qui nous donne des aspects un peu rares de l'histoire napoléonienne. Et en le lisant, on a également aussi un peu l'impression, par moment, que c'est une sorte de psychanalyse de Napoléon Bonaparte.
D'abord, bonjour, merci de me recevoir. Non, je ne me serais pas permis, mais c'est vrai que lorsqu'on étudie le Premier Empire, l'histoire de Napoléon, évidemment, l'histoire des guerres prend toujours une place assez importante, parce qu'on ne peut pas nier qu'il y a eu des guerres. Simplement, on oublie un peu, pour paraphraser ce que n'a pas dit Clausewitz, que la guerre est la continuation de la diplomatie par d'autres moyens, et que donc, mon idée, ça a été d'aller gratter un petit peu sur la diplomatie napoléonienne, sa politique étrangère, éventuellement ses buts, et puis de les illustrer au travers de quelques exemples. Alors, cet ouvrage est en fait non pas une compilation, mais la réunion de plusieurs interventions, de colloques ou d'articles que j'ai publiés parfois il y a très longtemps, ce qui ne rajeunit personne, qui ont été réécrits, réactualisés, et donc qui essayent de brosser ce portrait d'un Napoléon inattendu, un Napoléon diplomate et pas seulement chef de guerre.
Oui. Alors, il y a 9 chapitres qui sont chronologiques, je dirais, qui suivent un peu la trajectoire du consulat, de l'Empire. Et vous partez en vous interrogeant sur la notion d'Empire. Et vous dites que par son éducation et son ambition, Napoléon Bonaparte avait une vision impériale un peu carolingienne sur le modèle de la vision de Charlemagne.
Oui, Napoléon est l'homme de son époque. Il est d'abord l'homme de son temps, c'est-à-dire les Lumières, le début de la Révolution française, c'est-à-dire une époque où ces gens n'ont pas comme référence l'Antiquité, mais ils se considèrent comme étant des antiques. Et donc, Napoléon a été lui aussi bercé de cette culture, très tournée vers l'Antiquité, qui s'exprime par exemple par le néoclassicisme,
oui,
mais pas seulement, par le succès de Plutarque, par le succès des auteurs antiques. Et dès lors, il en déduit des positions politiques, on va dire, qui sont fondées, appuyées sur les exemples anciens. Charlemagne étant le modèle impérial qu'il met en avant, mais qu'il impose à l'ensemble de l'Europe.
Donc ces révolutionnaires et ces constructeurs de temps nouveau se considèrent plutôt comme des héritiers en quelque sorte.
Ils sont les héritiers de cette antiquité à la fois frugale, honnête,
élégante.
Élégante. Et c'est véritablement quelque chose de très ancré chez eux. Prenons un exemple un peu absurde, mais si un de nos présidents de la République venait vous dire qu'il est le successeur du Capet, ça vous ferait sourire. À cette époque-là, lorsque Napoléon dit, écrit, fait comprendre qu'il est le successeur de Charlemagne, c'est quelque chose que les élites croient. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement un fondement symbolique. Pour eux, il y a aussi du fond dans cette affirmation de Napoléon « Je suis Charlemagne », comme
oui,
il l'écrit.
C'est une affirmation de continuité.
Oui, et qui va d'ailleurs se plonger très très loin, puisque à plusieurs reprises, dans le conflit notamment avec la papauté, Napoléon fait référence à la donation de Charlemagne, c'est-à-dire une partie des états du pape, et ça va encore même plus loin lorsque le Conseil d'État doit justifier l'annexion du nord de l'Espagne. Il motive son arrêt en disant que dès lors que Napoléon est le successeur de Charlemagne et que l'Empire français est le successeur de l'Empire d'Occident, Napoléon a tout à fait le droit d'annexer le nord de l'Espagne.
Vous nous donnez aussi une description très intéressante qu'on oublie un peu trop souvent des causes profondes de la campagne d'Égypte, en disant que d'une part, Napoléon Bonaparte, parce qu'à l'époque il est Napoléon Bonaparte, rien d'autre, souhaitait s'éloigner des conspirations, des tribulations de prise de pouvoir, et que d'autre part, un des objectifs essentiels de cette campagne était de couper la route des Indes, déjà. Donc vous resituez cette campagne d'Égypte qui surprend quelquefois. Les écoliers ne savent pas très bien souvent à quoi elle correspond. Donc j'ai trouvé ce chapitre extrêmement intéressant, très riche, et avec toutes sortes de détails, et on y voit les hésitations de Bonaparte, de son entourage, sur le destin à donner à cette campagne, finalement.
Oui, si vous voulez, il y a dans, je dirais, dans l'historiographie la plus classique, l'idée première, c'est que Napoléon avait un rêve oriental, d'une part, et puis que d'autre part, le Directoire l'a autorisé à faire cette campagne pour l'éloigner de Paris. Alors ce à quoi on répond toujours que Napoléon avait peut-être une tentation d'Orient, comme a dit un auteur, probablement pas de rêve, c'est un homme qui évidemment a rêvé à certains moments, mais pas aux moments les plus concrets. Et puis quant à l'hypothèse qui veut que le Directoire l'ait éloigné, on dira que si le Directoire voulait éliminer Bonaparte de la lutte politique, il y avait d'autres moyens, hein, le poignard, la guillotine, voire la guillotine sèche, le complot, etc. Là, on envoie quand même une belle partie des armées françaises, en plus des troupes assez expérimentées, 40 000 hommes, pratiquement toute la flotte de Méditerranée, voire au-delà, emmener cette expédition là-bas. Il fallait bien qu'il y ait une raison, et cette raison, elle est évidemment géostratégique, dirons-nous, puisque c'est depuis toujours un des rêves français, c'est de s'emparer de l'Égypte, non pas pour aller retrouver la terre des pharaons, mais tout simplement parce que l'Égypte permet le contrôle de la route des Indes, avec le fameux double port qu'on voulait créer, c'est-à-dire ce qui aujourd'hui a donné le canal de Suez, mais dans les instructions de Bonaparte en Égypte, il doit créer ce double port, c'est-à-dire qui donne à la fois sur la Méditerranée et sur la mer Rouge, de telle sorte qu'on puisse plus vite aller contrer les Anglais vers les Indes. Rappelons aussi qu'à cette époque-là, les Français occupent les Mascareignes, c'est-à-dire la Réunion, l'actuelle île Maurice, et que donc, si on possède ce double port sur la mer Rouge plus ces îles qui sont sur la route des Indes, eh bien, on coupe la route des Indes à peu près comme on veut.
On tient la route.
Voilà, et c'est donc la campagne d'Égypte, elle est véritablement d'abord pensée comme un épisode de la guerre contre l'Angleterre. D'ailleurs, au début de la campagne, bien sûr parce qu'on doit garder le secret, mais aussi de façon très symbolique, l'armée d'Orient s'appelle l'aile gauche de l'armée d'Angleterre, ce qui est quand même aller voir un peu loin. Hein.
Bien, vous évoquez également alors, un chapitre de la vie internationale de l'époque qui est assez peu connu, c'est les relations avec le Maroc, et notamment une démarche assez étonnante qui a été ordonné à Murat, qui à l'époque était en Espagne, lequel a délégué le capitaine Antoine Burel auprès de Moulay Slimane. Vous voulez bien évoquer brièvement cet épisode ?
Alors, pour l'évoquer, il faut rappeler qu'à ce moment-là, l'Afrique du Nord passionne moins les Français que l'Égypte, évidemment, mais est quand même un endroit stratégique en Méditerranée important. Alors, cette Afrique du Nord, elle est à ce moment-là entièrement occupée ou sous la coupe de l'Empire ottoman, sauf le Maroc. Le Maroc, on l'oublie parfois, est un vieux royaume. C'est un des plus vieux royaumes du monde, si l'on peut dire, puisque la dynastie actuelle, alors avec ses branches différentes, ses sous-dynasties, ses coups de force, etc., remonte à peu près aux années 780, c'est-à-dire qu'elle est antérieure à l'Empire de Charlemagne. Donc ce royaume est un royaume déjà moderne, déjà organisé, qui commerce avec les États-Unis, qui commerce avec l'Europe, qui a une production agricole extrêmement importante. Donc les Espagnols sont avide des productions marocaines, et puis surtout, elle a une position stratégique importante, puisque avec Tanger, elle possède la seconde colonne d'Hercule, c'est-à-dire l'entrée du détroit de Gibraltar avec les Anglais de l'autre côté. Donc Napoléon a toujours eu comme idée, dans un premier temps, d'être allié du roi du Maroc, on disait d'ailleurs même à l'époque l'empereur du Maroc, de telle sorte que, eh bien, ensemble, ils puissent au moins contrôler une partie de l'entrée de la Méditerranée. Mais ce roi du Maroc, lui, il fait des affaires, c'est déjà presque un businessman, comme les rois actuels, si l'on peut dire, et qui donc, lui, il veut rester neutre, il veut continuer à développer son économie, en plus dans un contexte intérieur pas toujours très facile. Et donc, d'abord, c'est la neutralité. Et puis ensuite, les Français occupent l'Espagne, et le royaume d'Espagne possède les présides au Maroc, notamment Ceuta, qui est déjà à l'époque espagnole, qui l'est depuis le XVIe siècle. Et donc, Napoléon se dit, voilà, j'ai mis le pied, grâce à l'Espagne, j'ai mis le pied au Maroc. Mais les Marocains ne veulent pas l'entendre de cette oreille, d'où la mission du capitaine Burel, qui doit aller rencontrer l'empereur du Maroc. D'ailleurs, on peut noter, un peu le mépris de Napoléon qui envoie un capitaine pour rencontrer l'empereur du Maroc.
Et la missive qui a été adressée à Moulay Slimane a été jugée très insolente et pas assez référencieuse.
Voilà, voilà. Dans le contexte nord-africain de l'époque, l'empereur du Maroc n'est pas n'importe qui. Et donc, par conséquent, il s'attendait à ce qu'on lui envoie d'abord un personnage de plus haut rang et puis ensuite à ce que, comme on le faisait, les présents, les courriers, etc., soient plus déférents. Et donc le capitaine Burel est assez mal reçu, en fait.
Et les relations avec les Anglais étaient bonnes ?
Les Marocains, qui sont d'abord des commerçants à ce moment-là, sont extrêmement habiles dans leurs relations commerciales. C'est-à-dire qu'ils ont des relations à peu près avec tout le monde, y compris avec les États-Unis. Il y a des tas de bateaux américains qui viennent sur les côtes marocaines. Et donc, Moulay Slimane, celui que j'appelle l'empereur du Maroc, mais on l'appelait comme ça à l'époque, lui, il essaye de garder toujours la balance équilibrée entre tous ses intérêts. Mais il est vrai aussi que une certaine maladresse des Français va le jeter dans les bras des Anglais, avec lesquels il va faire une alliance, avec lui dans l'idée de récupérer les présides, c'est-à-dire Ceuta, Melilla, etc. Mais à l'arrivée, finalement, tout le monde est battu. C'est toujours le cas avec les Anglais, comme on le sait. Tout le monde est battu puisque l'Espagne va conserver les présides et l'empereur du Maroc va rester...
Il devra se contenter de la situation.
Voilà, il devra conserver son ancien territoire.
Alors, vous venez d'évoquer la présence de bateaux américains le long des côtes marocaines. On parle beaucoup de la Grande-Bretagne qui était l'ennemi fondamental, on peut bien
l'ennemi
dire.
L'ennemi héréditaire,
oui,
pourrait-on dire.
Ce sont les Anglais qui ont organisé plus ou moins toutes les coalitions, de près ou de loin. Et vous évoquez les ambitions américaines de Bonaparte. Alors ça, c'est quelque chose qui reste extrêmement vaporeux dans la mentalité française. Et puis aussi la question irlandaise.
Oui, alors vous dites son idée américaine est un peu vaporeuse. Nous apparaît vaporeuse, c'est probablement parce qu'elle l'était un peu. C'est-à-dire qu'il y a deux périodes. La première période, c'est le moment où Napoléon cherche à récupérer les colonies des Antilles. Et alors à ce moment-là, sa vision est de s'allier avec les Espagnols, qui sont déjà les alliés de la France, et de contrôler le golfe du Mexique, qui est l'équivalent de notre golfe actuel, c'est-à-dire qu'on y produit le sucre, qui est le pétrole de cette époque-là, qui est un facteur de richesse très important. Alors là, après cet échec, Napoléon ne va pas très très bien comprendre les États-Unis. Il les traite de nations de boutiquiers. Alors, il fait une affaire avec eux, c'est la vente de la Louisiane, où évidemment, il récupère des fonds. En fait, il a réalisé l'investissement de Louisiane au mieux, puisque les Français n'occupaient pas la Louisiane, contrairement à ce qu'on croit. Et donc, à partir de là, il va avoir des relations un peu compliquées avec les Américains. D'abord parce que Napoléon raisonne beaucoup en termes de puissance. Or, sur le plan militaire et sur le plan de la marine de guerre, les Américains, à ce moment-là, sont des nains. Ils ne concernent personne et ne font peur à personne.
C'est une petite nation débutante.
Oui. En revanche, ce que Napoléon n'a pas senti immédiatement, c'est la montée de la puissance commerciale américaine, qui à ce moment-là vraiment prend un essor très très important. Et puis, probablement n'a-t-il pas assez joué sur le contentieux américano-anglais. Puisqu'on l'ignore un petit peu du côté de l'Atlantique, en 1812, les États-Unis et l'Angleterre entrent en guerre à nouveau.
Ils sont en guerre,
voilà.
Oui.
Ce que les Américains appellent la deuxième guerre d'indépendance. Et alors, évidemment, on peut rêver, je n'aime pas trop les si en histoire, mais probablement que si Napoléon avait eu avec les Américains une relation plus équilibrée, plus sincère, si cette guerre avait éclaté 2 ans ou 3 ans plus tôt, probablement le sort de la guerre franco-anglaise en aurait été changé.
Mais Bonaparte n'est pas maritime, il est essentiellement continental.
Oui, alors effectivement, bien qu'étant des îles, il n'est pas aussi maritime qu'on pourrait s'y attendre. Et puis, il a une raison d'être continental, c'est qu'après Trafalgar, il n'a plus de marine.
Exactement, il y a eu Aboukir, il y a eu Trafalgar et il y a eu Copenhague. À partir de là, on n'a plus de marine.
On n'a plus de marine. Alors lui, il a des grands rêves de reconstitution de la marine, mais ce sont des rêves de mathématicien. Ce sont mathématiciens qu'il était, puisqu'il était membre de l'Institut au titre des mathématiques. Donc, il se met à calculer le nombre de chaînes qu'il possède, ça fera tant de planches, avec tant de planches, on fera tant de vaisseaux. Et puis, il conclut dans une des lettres qu'il écrit à l'amiral de Crest, ce qui veut dire que j'ai 165 vaisseaux de ligne.
Oui, mais il faut le temps de les
construire. Voilà, il faut le temps de les construire. Et en fait, Napoléon ne pourra pas avoir peut-être la politique mondiale qu'il aurait souhaité, non pas en domination du monde et en empire universel, mais en reconstitution de l'empire colonial français, qui était d'ailleurs idéalement placé avant la Révolution pour contrôler toutes les routes maritimes. Et il ne faut pas chercher ailleurs les causes de la Grande Guerre contre l'Angleterre, c'est que les Français peuvent étrangler le commerce britannique avec leur position maritime.
Oui, bien sûr, mais ça n'est jamais arrivé.
N'est jamais arrivé. D'ailleurs, à l'arrivée de toute cette histoire, si l'on peut dire, le grand vainqueur des guerres de la Révolution et de l'Empire, c'est, bon, sur le continent, la Russie et l'Autriche probablement, mais le grand vainqueur mondial, c'est l'Angleterre.
C'est l'Angleterre.
Parce que c'est le début de,
l'Empire britannique.
L'Empire britannique. Les Anglais sont seuls au monde à partir de ce moment-là. Ils vont être seuls au monde jusqu'à la Première Guerre mondiale.
Ils vont construire l'Empire des mers, en éliminant d'ailleurs ce qui reste un peu de la puissance maritime française. Alors, vous évoquez également, cette fois, un chapitre qui est plus connu, c'est la question polonaise qui sera à la base de la dispute entre la Russie et la France, avec cette expédition désastreuse, on peut le dire,
oui.
De la campagne de Russie. Mais là, on passe à un autre chapitre. Dans sa stratégie diplomatique, est-ce que finalement, l'empereur Napoléon n'a pas imaginer le monde comme il aurait voulu qu'il soit?
Ça, je ne peux pas vous répondre parce que on n'a jamais vraiment su quel était l'objectif de Napoléon.
Il ne s'est jamais exprimé clairement.
En dehors de ses dictées de Sainte-Hélène, mais c'est-à-dire quand il était trop tard, il annonce ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire une grande Europe fédérale avec toutes les nations qui marcheraient la main dans la main, etc. Il a des phrases absolument superbes dans le mémorial de Sainte-Hélène sur le sujet, mais pendant son règne, il a cultivé l'ambiguïté. Or, en matière internationale, rien n'est pire que l'ambiguïté, surtout que nous sommes sur une période très courte, 14 ans. Et si on prend simplement l'exemple de l'alliance principale de la France en Europe, en 14 ans, Napoléon en change 3 fois. Ça veut dire qu'il y a 2 renversements d'alliance, d'abord les Espagnols, ensuite les Russes, et puis enfin les Autrichiens. Et ça, c'est à la fois une expression du pragmatisme napoléonien, qui est légendaire, mais c'est aussi probablement une erreur de politique étrangère. Imaginons qu'aujourd'hui, la France change tous les 5 ans d'alliance principale en Europe ou dans le monde, on n'arriverait pas vraiment suivre le...
C'est très lent, la mécanique des alliances étrangères, il faut beaucoup de temps, donc en 14 ans, il n'aurait pas dû se permettre
sans doute, artistique. Oui, sans doute pas. D'autant que la solution finale lui avait été donnée par Talleyrand dès 1805. Talleyrand qui était un homme, un continuateur de la politique étrangère de la France sous l'Ancien Régime, en lui disant, écoutez, l'alliance principale doit être avec l'Autriche. Évidemment, puisque vous contrôlez l'ouest du continent, l'Autriche va vous surveiller, va contrôler le centre et va surveiller l'est. Sous-entendu, l'Empire ottoman et la Russie. Or, Napoléon n'écoute pas Talleyrand en 1805 et au fond, il perd 6 ans avant de passer à l'alliance autrichienne.
Oui, vu rétrospectivement...
Nous avons cette facilité de connaître la suite.
Oui. C'est un peu injuste notre vision parce que avons le recul du temps. Une dernière question un peu sournoise. Au moment du plus grand empire, quand, par exemple, la Pologne, le Grand-Duché de Varsovie, du moins, devient un ensemble de départements français avec toutes sortes de choses, est-ce que ce n'est pas une préfiguration de l'Union européenne ?
Oui, enfin oui et non. C'est-à-dire, oui, dans la mesure où, effectivement, il va y avoir, sous prépondérance française, la continuation de l'existence d'États souverains, parce que Napoléon, encore une fois, Napoléon n'a pas voulu dominer l'Europe au sens que toute l'Europe devienne française. Il a voulu l'organiser autour de la prépondérance française, alors, ou de l'hégémonie française, disons. En revanche, là où ça ne ressemble pas à l'Union européenne, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre dans ce grand ensemble, c'est-à-dire que Napoléon l'exprime lui-même à Eugène de Beauharnais dans une lettre, il lui dit « Rappelez-vous toujours de mon principe qui est la France avant tout ». Or, c'est bien le contraire de la mise en commun de moyens, d'existence, etc. Alors, évidemment, il y a une sorte de législation commune avec le code civil, il y a une monnaie commune avec le franc, on pourrait même rêver un marché commun avec le blocus continental, mais de ce côté-là, Napoléon ne fait aucune concession, c'est vraiment toujours la France avant tout.
C'est un exercice de domination.
Oui, c'est un exercice de domination à partir du moment où Napoléon ne maîtrise pas tellement sa puissance, après 1807. Oui.
Mais qui restera très flottant, faute de temps, en fait.
Oui,
et de personnel,
oui,
peut-être.
Et puis, il y a un tournant que Napoléon a manqué, enfin un tournant. S'il avait été un visionnaire, il aurait probablement dû jouer la carte allemande. Quand je dis la carte allemande, je parle de la Tierce Allemagne, c'est-à-dire celle qui n'est ni autrichienne ni prussienne, parce qu'il y avait là un désir de France, si
oui,
je puis dire.
Une opportunité.
Une opportunité de créer, et il aurait pu le faire avec la Confédération du Rhin. C'était d'ailleurs prévu dans les statuts de la Confédération du Rhin, il devait y avoir une diète confédérale, etc. Mais ça n'a jamais été mis en place, et Napoléon a plutôt je dirais, mépriser les petits souverains allemands qui, eux, non pas parce qu'ils aimaient la France, mais parce qu'ils en avaient besoin, étaient prêts à entrer dans une alliance.
C'était un espoir, d'où ce retournement d'opinion avec les discours de Fichte, etc.
Exactement.
Et tout ce qui a suivi après. Je ne saurais donc trop recommander « Napoléon diplomate » de Thierry Lenz aux éditions du CNRS. C'est un livre intelligent, subtil, comme son auteur
Merci
d'ailleurs,
beaucoup.
Et qui est un merveilleux cadeau de fin d'année. Merci Thierry Lenz.
Merci à vous.